Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue au programme de ce dimanche 15 novembre. Avec vous, Jean-Noël Ducasse et Christophe Mallet pour une heure de français. Au sommaire, le journal, les sports, le personnage de la semaine et Europe of Voice, 70e épisode. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Les grands titres de ce 15 novembre, le ministre fédéral de la Santé a déclaré que les enfants atteints d'amyotrophie spinale auront bientôt accès à un médicament. C'est la semaine nationale de la sécurité routière et les Australiens sont priés de faire une pause à se souvenir des 1200 personnes tuées dans des accidents de la route chaque année. Le ministre fédéral de la Santé, Greg Hunt, a déclaré que les enfants atteints d'amyotrophie spinale auront bientôt accès à un médicament qui changera leur vie grâce au régime de prix et de remboursement de prestations pharmaceutiques. L'accès subventionné au médicament Spinraza sera disponible pour inclure les enfants et les nourrissons diagnostiqués avec les types les plus graves d'amyotrophie avant l'apparition des symptômes.
Spinal muscular atrophy is a very difficult disease. It's a motor neurone condition for young children, and it is the largest genetic condition in terms of lives lost for under twos. So it's hard to imagine something which is more confronting. And today, I am delighted to announce that the Australian government will list Spinraza for pre-symptomatic children with spinal muscular atrophy from the 1st of December.
Le ministre Greg Hunt déclare que qu'avec cette subvention, les familles paieraient plus de 367 000 dollars par an pour le traitement, mais maintenant le médicament Spinraza leur coûtera 41 dollars ou 6,60 dollars par script avec une carte de concession. Le gouvernement de Scott Morrison reste déterminé à rapatrier les Australiens bloqués à l'étranger par le COVID-19, mais le secteur de l'éducation a été invité à travailler avec les gouvernements des États et des territoires en ce qui concerne les étudiants internationaux. Le ministre fédéral de l'Éducation, Dan Tehan, a déclaré sur Sky News que l'Australie était presque victime de son propre succès avec les Australiens vulnérables qui veulent rentrer chez eux.
What we've said and made it very clear is within the existing caps, priorities have to be given to returning Australians. That has to be our priority, and we've made that very clear to state and territory governments. But once there is obviously room for international students, then what we've been saying to state and territory governments is work with the university sector to see, well, what is the best way that we can bring international students in.
L'industrie australienne de l'éducation concernant ses étudiants étrangers vaut quelque 40 milliards de dollars et a été durement touchée par la pandémie de coronavirus avec la perte d'environ 10 000 à 12 000 emplois. Le Victoria a enregistré son 16e jour consécutif ce dimanche, sans nouveau cas de coronavirus et sans décès dû au COVID-19. Le nombre de cas mystérieux sur 14 jours dans l'État est également tombé à zéro pour la première fois depuis la deuxième vague. Il y a 3 cas de coronavirus actifs dans le Victoria, alors que la pression augmente pour que le chef de l'État, Daniel Andrews, accélère la feuille de route de son gouvernement vers le Covid normal, y compris en assouplissant l'utilisation de masques.
The biggest and most important takeaway for every single Victorian is if you have symptoms, even the mildest symptoms, please go and get tested and get tested quickly. For instance, if you have symptoms today, don't wait till Monday to get tested. Go and get tested today. It makes a massive difference. I can also confirm that there are now no mystery cases across Victoria.
La Nouvelle-Galles du Sud a enregistré 8 jours consécutifs sans cas de COVID-19 acquis localement. Il y a cependant 9 cas de virus acquis à l'étranger, chez des voyageurs en quarantaine dans un hôtel, a déclaré New South Wales Health. L'État n'a actuellement personne soigné pour le virus dans les unités de soins intensifs. Le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud vise à améliorer le bien-être des étudiants en mettant des infirmières dans les écoles primaires et secondaires pour traiter et orienter les étudiants aux prises avec des problèmes de santé mentale et autres problèmes médicaux. Le gouvernement investit 46,5 milliards de dollars pour un déploiement de 100 infirmières au cours des 4 prochaines années. Il y aura une infirmière autorisée pour 2 écoles ou une pour 4 écoles dans les régions régional. En France maintenant, avec les déclarations de Jean Castex, le Premier ministre français, que le virus est là pour un moment. Hier, il a élaboré les règles mises en place pour lutter contre le Covid-19. Et Jean Castex, le Premier ministre, a aussi lancé une contre-offensive médiatique face aux critiques contre lui. Précision de Valérie Gasse pour Radio France Internationale.
Jean Castex a choisi de se confier au quotidien Le Monde pour mettre les points sur les i. À ceux qui parlent de l'enfer de Matignon, le chef du gouvernement oppose sa fierté de servir l'État et affirme que c'est exaltant. Pour lui, être Premier ministre est une chance. Les attaques et les comparaisons défavorables avec Édouard Philippe, Jean Castex dit les avoir intériorisées et sait que prendre des coups fait partie de sa mission. Une mission qu'un responsable de la majorité définit en déclarant qu'il n'attend pas que Jean Castex incarne autre chose que la fonction de Premier ministre, il doit protéger Emmanuel Macron. Et pour y parvenir, il lui a été demandé de mettre en responsabilité ses ministres. Certains poids lourds du gouvernement en ont profité pour jouer leur partition, comme Bruno Le Maire, quitte à saper l'autorité du Premier ministre, qui subit par ailleurs les critiques de l'opposition sur le reconfinement. Une mauvaise passe marquée par une cote de popularité qui plonge. Jean Castex lui affirme qu'il regarde plus les courbes en réanimation que celles des sondages. Mais un conseiller du président de la République en convient, il est dans le dur, il faut que ça remonte, on va l'aider.
Toujours en France, les conséquences économiques du lockdown à Marseille, avec la fermeture des cafés et des restaurants. Les dernières nouvelles avec Stéphane Burgat pour RFI.
À l'écart du rassemblement, elle sèche une larme. Amel a repris le restaurant familial au décès de son père. Une affaire aujourd'hui en danger, la jeune femme est dos au mur.
Oui, là, il faut réouvrir. Mais tous réouvrir. Après, je réouvrirai pas toute seule, ça, c'est clair. Hein. Comme on entend, là, c'est ce qu'il est en train de dire, là. Si on ouvre tous, oui, j'ouvrirai aussi également. Oui, parce que de toute façon, dans les deux cas, je vais peut-être mourir. Soit il y a un confinement total, soit non, pas un confinement à demi-mesure.
Et il n'y a pas que les restaurateurs qui l'envisagent. Hakim est barbier et il est prêt aujourd'hui à se poser en leader de la fronde.
Je suis venu pour refaire un appel à l'ouverture. Je suis prêt, moi, à payer les amendes. Il n'y a pas de problème. Les amendes, je les paierai. Je vais faire payer 135 euros d'amende. Une fois, parce qu'ils vont pas me le faire tous les jours, c'est sûr. On verra s'ils viendront nous fermer les portes. Oui. Moi, je suis prêt à le faire dès demain, moi. Dès demain, j'ouvre. Moi, je suis prêt. Et on sera solidaire des petits commerçants qui auront pris une amende, on aidera à les payer. Mais moi, je suis prêt à ouvrir, parce que là, les discours, ça sert à rien.
Des appels à la rébellion qui doivent être pris très au sérieux, selon les représentants locaux de l'Union patronale et de la Chambre de commerce et d'industrie, qui constatent une hausse sensible du nombre de dépôts de bilan et une dégradation du tissu économique.
Les catholiques français demandent un assouplissement du confinement pour les célébrations hebdomadaires. Il y a une forte mobilisation dans plusieurs villes de France, comme l'explique Laurence Théo pour RFI.
Ils prient pour que la messe revienne. Le père Emmanuel Schwab de la paroisse Saint-Léon à Paris pense que ce moment de communion est essentiel, à condition bien sûr de respecter les gestes barrières.
Ce que nous célébrons dans l'Eucharistie, c'est précisément ce qui nous permet de ne pas répondre à la violence par la violence, ce qui nous permet de déployer des énergies considérables au service des plus pauvres, c'est ce qui nous permet d'être un vrai lieu de socialisation, notamment dans la ville où il y a beaucoup d'anonymat. Il y a des personnes seules qui n'adressent la parole à quelqu'un que lors de la messe du dimanche.
Le décret permet de célébrer les mariages et les enterrements en nombre limité, mais il interdit la célébration collective des office, incompréhensible pour le père Schwab.
Au nom de quoi l'État a autorité pour me dire quel type de célébration je peux faire. C'est une intrusion dans ma responsabilité de curé de paroisse que je ne comprends pas. Que l'État me dise, vu la crise sanitaire, écoutez, il faut au moins 4 mètres carrés par personne, votre église est faite telle surface, vous ne mettez pas plus de tant de personnes. Très bien, ça je comprendrais très bien. En vertu de la séparation de l'église et de l'État, au nom de quoi on va me dire ce que je peux célébrer dans mon église ?
Le prêtre se dit toutefois obéissant. Les fidèles suivront la messe de ce dimanche par visioconférence.
Les déplacements entre la France, la métropole et la Polynésie française restent possibles, mais pas à but touristique, comme l'explique Eyata Buluc pour le journal de l'Outre-mer de RFI.
Si un voyageur français a fait une réservation de séjour en Polynésie, il ne pourra pas se présenter à l'aéroport de Paris. Il n'y a pas de dérogation pour ce genre de déplacement. Seuls sont autorisés pour motif d'ordre familial, pour raison de santé et de travail. Un coup dur pour le tourisme polynésien qui voit plusieurs annulations d'hôtels, de pensions de famille ou d'activités touristiques depuis le début du confinement en France. C'est le cas pour la société de plongée Blue Water Amouria. Pathé Alexandre, le gérant, se retrouve avec un manque à gagner de plus de 500 000 francs pour ce mois de novembre.
Moi, la plupart de mes clients sont plutôt américains. Et puis, bon, à peu près un tiers sont des Français, quoi. Donc, déjà, sur le peu qu'on a, un tiers, c'est déjà beaucoup en moins, quoi. J'avais quelques réservations pour le mois de décembre de touristes français. Pas grand-chose, à peu près une dizaine. Et puis, bon, là, c'est sûr que, bon, c'est un gros coup pour moi, quoi. Une dizaine de réservations, pour moi, c'est à peu près 500 000 francs de chiffre d'affaires, quoi. J'ai pas encore checké mes mails, je pense qu'ils vont annuler. C'est pas bon.
Il s'agit d'une décision française. Elle ne concerne pas les touristes qui embarquent à Los Angeles.
Aux États-Unis, des milliers de partisans de Donald Trump à Washington pour protester contre les présumées fraudes électorales, même s'ils n'ont pas de preuves. Reportage Anne Corpé pour RFI.
Ils sont venus de tout le pays pour montrer leur soutien au président. Des Cubains de Floride, des gros bras tatoués du Kentucky, des ouvriers de l'Ohio, des femmes au foyer de Caroline du Sud. Tout l'électorat de Donald Trump est représenté. Nous sommes ici pour dénoncer les fraudes. Trump reste notre président, lance une jeune fille coiffée de la fameuse casquette rouge. Je ne crois pas au décompte des bulletins de vote, renchérit son voisin avant d'ajouter « Je ne croirai à la victoire de Joe Biden » que si elle est proclamée par la Cour suprême. L'ambiance est plutôt bon enfant. Elle rappelle celle des meetings de campagne du président, les mêmes slogans, USA, USA ou encore 4 ans de plus, mais aussi un nouveau, Stop the Steal, cessez le vol, sous-entendu, le vol de la victoire à laquelle ils croient tous, celle de Donald Trump. Même l'administration a évoqué un scrutin tout à fait régulier, mais les partisans du président n'y croient pas. Une semaine après l'annonce de la victoire de Joe Biden, ce sont eux qui battent le pavé dans les rues de la capitale fédérale.
Selon un responsable des autorités afghanes, les forces armées ont capturé le cerveau de l'attaque du 2 novembre dernier contre l'université de Kaboul, où il y a eu plusieurs personnes tuées. Reportage de Sonia Ghezali pour RFI.
C'est sur sa page Facebook que le vice-président afghan, ancien chef des services de renseignement, a annoncé l'arrestation de l'organisateur de l'attaque de l'université de Kaboul. L'insurgé aurait été recruté par le réseau Haqqani, la branche armée des talibans, qui lui aurait fourni des armes. Ancien étudiant de loi islamique, le jeune homme aurait disparu pendant 3 ans pour s'entraîner pour la guerre, a rapporté le vice-président Amoula Saleh. Selon lui, je cite, « L'attaque du 2 novembre a été menée afin de diffamer et de faire pression sur le gouvernement, ainsi que de lui donner l'air faible devant le peuple ». Les autorités afghanes ont en effet été fortement critiquées après cette attaque pour ses failles au sein des services de renseignement, d'autant qu'un centre éducatif avait par ailleurs été visé dans une attaque quelques jours avant dans l'ouest de Kaboul, faisant 24 victimes. Attaque revendiquée par la branche afghane du groupe État islamique en Afghanistan. Faux, disent les autorités afghanes qui affirment que derrière chaque attaque revendiquée par l'EI en Afghanistan se cachent les talibans. Ces derniers accusent le gouvernement de Kaboul de diffuser sa propagande. C'est dans ce climat délétère que les pourparlers de Doha se poursuivent. Ils ont commencé en septembre. Talibans et représentants du gouvernement et de la société civile sont assis à la table des négociations. Des discussions difficiles qui peinent à avancer confient de nombreuses sources diplomatiques.
Retour en Australie avec des interdictions totales d'allumer des feux. qui sont en place dans une grande partie de l'Australie du Sud. Les autorités demandent aux gens à prendre des précautions et à examiner leur plan de sécurité. La Country Fire Service a déclaré un risque grave dans 6 districts pour ce dimanche 15 novembre, surtout dans les Flinders Ranges et le centre nord où le risque est considéré comme extrême. Mardi dernier, il y a eu plus de 300 000 coups de foudre qui ont déclenché plusieurs incendies, dont certains menaçaient des villes de la péninsule de York. C'est la semaine nationale de la sécurité routière et les Australiens sont priés à faire une pause, à se souvenir des 1200 personnes tuées dans les accidents de la route chaque année et à réfléchir à la responsabilité de chacun de rendre les routes plus sûres. Le vice-premier ministre Michael McCormack a déclaré qu'il était important de comprendre l'impact profond des accidents de la route pour toute la communauté. On passe à la météo pour ce dimanche en Australie. À Perth, il fera 22 degrés. Adélaïde, 36. Melbourne, 33. Hobart, 20. Canberra, 28. Sydney, 26. Brisbane, 31. Cairns, 33. Darwin, 35. Et à Alice Springs, maximale de 40 degrés. Un rappel des grands titres de ce 15 novembre, le Victoria a enregistré son 16e jour consécutif sans nouveau cas de coronavirus et sans décès dû au Covid-19. Et puis comme je le disais, c'est la semaine nationale de la sécurité routière et les Australiens sont priés à faire une pause, à se souvenir des personnes tuées dans des accidents de la route. Fin du journal et merci de rester avec nous. Journal des sports de ce dimanche avec tout d'abord le foot, la Ligue des Nations, la 5e journée marquée par la victoire des Bleus hier contre le Portugal 1-0. Les Bleus qui partent en demi-finale. Antoine Grenier commente la fin du match et il répond aux questions de Christophe Jousset pour RFI.
Et c'est fini, ici l'équipe de France s'impose 1-0 face au Portugal et se qualifie pour la phase finale de la Ligue des Nations. Ils avaient été très déçus les Français lors de la précédente édition, ils s'étaient fait battre par les Pays-Bas et ils n'avaient pas fini premier de leur groupe dans la Ligue A et ça les avait privés de la phase finale. Eh bien c'est fait, cette fois-ci les Bleus sont qualifiés pour la phase finale avant même la dernière journée de phase de groupe de la Ligue des Nations.
Avec un but de N'Golo Kanté, vous l'avez dit, cette équipe de France qui s'est donc reprise ce soir, il faut dire que c'était peut-être pas tout à fait la même équipe que celle qui a perdu contre la Finlande il y a quelques jours, toujours sous vos yeux.
Oui, mais ça n'avait absolument rien à voir comme équipe contre la Finlande. Didier Deschamps avait sciemment aligné tous les coiffeurs, comme on dit, tous les remplaçants habituels. Il n'y avait que, si je ne me trompe pas, il n'y avait que Paul Pogba au coup d'envoi de France-Finlande et de Portugal-France. Ça fait peu. Là, c'était les champions du monde dans leur immense majorité, mis à part Presnel Kimpembe, mis à part Adrien Rabiot, Kingsley Coman. Et la petite surprise, Anthony Martial qui avait été aligné en pointe de l'attaque. Mais résolument, Didier Deschamps avait fait un choix, c'est-à-dire qu'il avait tout misé, il avait fait tapis sur ce match contre le Portugal. Il savait que le vainqueur de cette rencontre, à cause de la différence de but particulière, puisque c'est comme ça qu'on départage les équipes en Ligue des Nations, il fallait que le vainqueur remporte 7 rencontres ce soir serait qualifié pour la phase finale de cette Ligue des Nations. Donc il a tout misé sur ce match, Didier Deschamps, et les faits lui donnent raison ce soir. Victoire des Bleus, 1-0, grâce à un buteur inhabituel, on le répète, hein, N'Golo Kanté. C'est seulement son 2e but en 44 sélections. Le dernier remontait à un match amical en 2016 contre la Russie. C'est vous dire si il l'a attendu, ce 2e but en bleu. Mais autant son 1er but était relativement anecdotique, autant celui-là a beaucoup d'importance parce qu'il qualifie les Bleus pour la phase finale de la Ligue des Nations, mais aussi parce que cette qualification, elle est synonyme de quelques rentrées supplémentaires d'argent. Ça vaut 2,25 €, une qualification pour la phase finale de la Ligue des Nations. C'est toujours intéressant dans un contexte de football post-Covid.
Les Bleus pourront retrouver l'Allemagne prochainement. L'Allemagne qui a battu l'Ukraine 3-1. Hugo Moissonnier, RFI.
L'Allemagne qui s'impose 3 face à l'Ukraine, ça avait pourtant mal débuté pour les Allemands puisque ce sont les Ukrainiens qui ont ouvert la marque par l'intermédiaire de Yaremchuk à la 11e minute. Mais le roi Sané, il a réveillé la Mannschaft avec un superbe enchaînement, crochet, frappe du gauche enchaîné à peu près 10 minutes plus tard, un peu plus de 10 minutes plus tard. Et puis c'est un ancien de Leipzig, Timo Werner, qui a offert la victoire à l'Allemagne avec un doublé, un 1er but à la 33e minute, un autre peu après l'heure de jeu, 3-1 pour l'Allemagne qui au classement compte 9 points une journée de la fin et prend la tête devant l'Espagne.
Bah oui, parce que Hugo, l'Espagne s'est fait surprendre par la Suisse.
Oui, surprendre par la Suisse en Suisse avec Fröler qui a ouvert la marque. On a longtemps cru que la Suisse allait même carrément s'imposer dans cette rencontre, mais les Espagnols ont eu les ressources pour égaliser en toute fin de match par l'intermédiaire de Gérard Moreno, mais c'est quand même une mauvaise opération au classement puisque l'Espagne qui était en tête avant cette 5e journée dans ce groupe 4, est rétrogradée à la 2e place. 8 points pour l'Espagne, 9 points pour l'Allemagne. Il y aura lors de la prochaine journée un Espagne-Allemagne, et c'est lors de cette rencontre que se jouera la qualification pour les demi-finales dans cette poule.
Dans les autres matchs, la Suède s'est imposée contre la Croatie 2-1, victoire de Chypre contre Luxembourg 2-1, le Monténégro et l'Azerbaïdjan ont fait match nul 0-0, victoire de Malte contre Andorre 3-1, la Lettonie et les îles Féroé ont fait match nul 1 but partout. Match nul également pour Saint-Marin contre Gibraltar 0-0. Les Bleus de France Espoir se sont qualifiés pour l'Euro 2021 en écrasant Liechtenstein 5-0. Et demain, les Bleuets joueront contre les Suisses. On passe en Afrique avec les derniers matchs de qualification pour la CAN 2022 avec Cédric des Oliveira qui est avec Clémentine Pavlovski pour RFI.
Oui, les Congolais n'ont pu faire mieux que 0-0 face à l'Angola sans l'appui de leurs supporters. Le match avait lieu à huis clos au stade des Martyrs, même si le président Félix Tshisekedi était présent. Yannick Bolasie a touché le poteau. Cédric Bakambu s'est aussi procuré une belle occasion. Manque d'efficacité, un mal récurrent pour les Léopards et le défenseur Jordan Botaka.
C'est dommage, je pense qu'on domine le match, on doit le gagner. Mais ça fait mal de devoir dire qu'on n'a pas concrétisé nos occasions. C'est un problème qu'on a depuis le début du qualification. Je pense qu'on a montré du beau football, mais voilà, avec le beau football, tu ne gagnes pas le match. C'est le but qu'il faut marquer. Mais voilà, on ne peut pas baisser les bras. Toutes les portes sont encore ouvertes. Maintenant, mardi, on doit récupérer pour faire le boulot mardi.
Et Jordan Botaka au micro de Kaboulo Moana Kaboulo. 0-0, ça fait donc 3 points en 3 matchs pour la RDC qui compte 1 point de retard sur la Gambie. Deuxième de son groupe, la RDC qui jouera à nouveau face à l'Angola mardi.
Et en revanche Cédric, ça va mieux pour l'Égypte. Les Pharaons ont remporté leur premier succès dans ces éliminatoires.
Une victoire 1-0 face au Togo en l'absence de Mohamed Salah touché par le coronavirus. C'est Mahmoud Hamdi qui a fait la différence. Les Égyptiens rejoignent les Comores en tête avec 5 points. Et puis un peu plus tôt dans la soirée, le Bénin a fait une belle opération en s'imposant 1-0 face au Lesotho devant 1800 spectateurs à Porto Novo. Un but de Jodel Dossou en première période. Les écureuils en profitent pour se rapprocher de la tête du groupe L. Avec 6 points, ils n'ont qu'un point de retard sur le Nigeria.
Rugby, le Rugby Championship, la 3e journée marquée par la victoire des Pumas de l'Argentine contre les All Blacks de la Nouvelle-Zélande 25-15. Et c'était la 2e défaite des All Blacks en une semaine après la victoire des Wallabies la semaine dernière. On passe au tennis avec le tournoi de Sofia et la finale remportée par l'Italien Yannick Sinner contre le Canadien Pospisil 6-4, 3-6, 7-6. À Linz, chez les dames, la finale ce dimanche entre la Biélorusse Arina Sabalenka et la Belge Elise Martens. Et puis les Masters de Londres débutent ce dimanche avec deux matchs. Dominic Thiem, l'Autrichien, contre Stefanos Tsitsipas, le Grec. Raphaël Nadal, l'Espagnol, jouera contre Rublev, le Russe. Un mot de Formule 1 avec le Grand Prix de Turquie ce dimanche. MotoGP et le Grand Prix de Valence sera couru également ce dimanche. Vous écoutez le programme en français et on passe à Europa Voice, 70e épisode ce dimanche avec Christophe Mallet et Nathanaël Bloch pour parler de la fin de l'ère Trump qui signe un retour à la normale des relations entre l'Union européenne et les États-Unis. La question se pose donc, Europa Voice, 70e épisode.
Europa Voice numéro 70, déjà numéro 70, et comme à chaque épisode, je suis avec Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël.
Salut Christophe.
Et là on a du coup, on a un nouveau président américain élu, et ça va être le vrai fil rouge de cette Europa Voice numéro 70, et justement, encore une fois, les relations entre les États-Unis sur le divorce Union européenne et la Grande-Bretagne. Et c'est vrai que les Américains, par le biais de Trump, ont vécu ce Brexit depuis le début, et Donald Trump était quand même plus ou moins un énorme support, un énorme soutien pour Boris Johnson. Bon, Boris Johnson, il a clairement perdu ce soutien américain. La relation de Joe Biden avec la Grande-Bretagne va aussi également être clé dans, entre guillemets, la survie de la Grande-Bretagne. Ça doit forcément jouer aujourd'hui dans les discussions européennes.
Alors effectivement, Christophe, les États-Unis, par la voix de Donald Trump, s'étaient impliqués dans ce Brexit, mais j'allais dire que, et c'est ce qu'on soulignait il y a quelques instants, c'est que là on est vraiment dans un jeu entre les négociateurs européens et les négociateurs britanniques. Le seul élément, si vous voulez Christophe, on voit vraiment que les États-Unis sont encore à la manœuvre, c'était, rappelez-vous, Boris Johnson avait essayé début septembre de détricoter un petit peu l'accord de divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Il y avait la Chambre des communes qui avait adopté une première fois, Christophe, fin septembre, la nouvelle proposition de Boris Johnson. Mais finalement, Washington, et d'ailleurs déjà par la voix du nouveau président élu, Joe Biden, avait vu d'un œil extrêmement mauvais cette espèce de tour de force du Premier ministre britannique, qui voulait en fait s'affranchir totalement des obligations que le Royaume-Uni aurait vis-à-vis de Bruxelles, et de détricoter ce qui concerne à la fois le protocole nord-irlandais de l'accord de retrait, mais aussi tout ce qui concernait les clauses sur le marché intérieur. Donc Washington a fait pression sur ça, et les lords au Royaume-Uni, Christophe, excusez-moi, les lords ont complètement remanié de nouveau dans un sens plus favorable au premier accord, à la première mouture qu'avaient donné les Européens, cet accord-là. Donc j'allais dire, c'est là où vraiment Washington avait envie de, je pense, de ne pas non plus se fâcher avec l'allié européen, et faire que finalement Boris Johnson respecte en fait l'accord pour lequel il s'était engagé et pour lequel les deux parties en fait sont en train de négocier ce Brexit pour la fin de l'année.
D'accord. Alors parlons un petit peu justement un peu plus en détail des négociations, parce qu'on arrive vraiment à la date butoir qui avait été fixée par à la fois par l'Europe et par la Grande-Bretagne pour une sortie ferme et définitive du Royaume-Uni de cette Union européenne. On en est où? Et on sait, on a cru comprendre qu'il y a quand même des tensions, même personnelles, entre Ursula von der Leyen et Boris Johnson.
Alors, d'abord sur les négociations elles-mêmes, Christophe, les négociations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, elles sont dans une phase extrêmement intense actuellement, et elles se poursuivent, ces négociations. C'est déjà le premier point, hein, ça peut paraître un peu banal à nous de le rappeler, mais les négociations ne sont pas arrêtées, elles se poursuivent. Et en diplomatie, tant que les acteurs se parlent, c'est plutôt bon signe. Ça, c'est le côté positif, c'est le verre à moitié plein. Le verre à moitié vide, Christophe, c'est que dans le calendrier de cet accord de Brexit et de la relation finalement commerciale qui va régir en fait la relation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne après le Brexit, c'est que on avait donné à peu près à la mi-novembre comme la date limite pour qu'on soit encore à temps pour ratifier un accord qui rentrerait en vigueur le 1er janvier 2021.
La mi-novembre, c'est aujourd'hui.
La mi-novembre, c'est aujourd'hui, Christophe. Mais c'est pour ça que je vous dis que là, on est dans la partie du verre à moitié plein. C'est qu'on s'était fixé mi-novembre pour que il puisse y avoir un accord qui entrerait en vigueur le 1er janvier 2021. Christophe, vous le savez, nous le savons, nos auditeurs le savent, le 1er janvier 2021, c'est la fin de la période de transition qui a été mise en place pour la négociation, période de transition dont on sait déjà que les acteurs ne veulent pas la renouveler d'un an. Et c'est ça, le verre à moitié plein, c'est que on arrive à cette date butoir pour que tout se mette d'équerre et qu'on n'est pas encore arrivé à avoir la négociation de cet accord-là. Alors, les chefs de gouvernement et d'État de l'Union européenne ont déjà prévu de se retrouver dès la semaine prochaine, mais pour l'instant, on était sur une réunion Covid et il semblerait qu'à l'heure du jour, se greffe encore une fois cette question de Brexit. Donc, vous voyez, on avance parce que les parties se parlent encore et encore, on continue de buter toujours et encore et toujours, Christophe, sur ces mêmes problèmes, ces questions d'accord de pêche, ces questions aussi par rapport à tout ce qui va concerner le dumping économique, hein, et les questions de marchandises et les aides de l'État britannique par rapport aux marchandises qui pourraient arriver sur le marché européen. Donc on est toujours encore sur ces mêmes questions-là, et c'est là où on se dit mais quel va pouvoir être le trigger, quel va pouvoir être l'élément déclencheur qui va faire que entre maintenant mi-novembre et l'entrée en vigueur d'un accord, on va trouver vraiment le chemin vers un Brexit et ne pas se diriger, comme tout le monde le craint encore, vers un no deal.
Voilà, et no deal qui voudrait dire se retourner vers l'Organisation mondiale du commerce en termes de termes, en termes de relations entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne, ce qui serait globalement, on peut le débattre, mais ça pourrait être désastreux pour tout le monde en fait.
Ah bah, de manière très, très schématique, en fait, tout l'intérêt d'avoir un marché commun, l'Union européenne, c'est que vous avez des accords tarifaires, des accords douaniers qui sont négociés, des accords préférentiels, et vous n'avez pas besoin à chaque fois de négocier des accords bilatéraux pour exporter, pour importer des marchandises. Pour prendre l'exemple australien qu'on connaît bien, l'Australie est en train, Christophe, de négocier avec chaque entité dans le monde des accords de libre-échange avec des règles extrêmement compliquées. C'est des rounds qui mettent des mois à se faire, où pour chaque type de produit, chaque type de structure, etc., vous allez négocier des tarifs, etc. Quand vous avez un marché commun, quand vous avez des règles communes, vous abolissez les frontières et donc vous bénéficiez à la fois non seulement d'une simplicité administrative, mais aussi d'un accès à un marché qui à chaque fois ne vous requiert pas de devoir négocier. Quand vous n'avez pas ces accords qui sont négociés, vous êtes régi non pas par le vide, le néant ou par une main invisible, enfin quoique, mais vous êtes régi par les accords de l'Organisation mondiale du commerce qui évidemment, comme ne sont pas des accords de libre-échange, sont absolument pas à l'avantage des deux acteurs qui négocient ensemble. Donc vous pouvez vous retrouver dans une situation où le Royaume-Uni va en fait devoir négocier avec l'Union européenne au même titre que des pays aux antipodes de l'Union européenne, avec lesquels il n'y a aucun accord, avec lesquels il n'y a aucune histoire, avec lesquels il n'y a aucun antécédent de négociation, va devoir négocier le Royaume-Uni sur la base de grilles tarifaires absolument pas avantageux. Et donc, pour l'Union européenne, surtout, il n'y aurait aucune raison d'entrer dans des négociations avec le Royaume-Uni, d'autant plus que le Royaume-Uni, a priori, n'a pas, si vous voulez, Christophe, de produits ou de savoir-faire qu'on ne trouverait pas, mais juste pour des raisons géographiques, Christophe, dans d'autres pays de l'Union européenne. Et c'est pour ça, elle intéressante question, c'est pour ça que je reviens sur les accords de pêche, hein, et ces questions-là qui fâchent en ce moment l'Union européenne et le Royaume-Uni, c'est que un des leviers de négociation du Royaume-Uni, c'est la zone maritime autour de l'île qui ferait qu'ils aient accès à des réservoirs de pêche et donc, dans ce cas-là, auraient un argument, si vous voulez, quelque chose à négocier avec l'Union européenne, parce qu'ils auraient accès à des ressources auxquelles n'auraient pas accès les Européens. C'est pour ça que le Royaume-Uni, en fait, ne lâche pas sur ces questions d'accords de pêche, parce qu'ils savent que, en fait, derrière ces accords de pêche, qui se cassent aussi derrière, c'est la relation commerciale, de manière plus globale, entre le Royaume-Uni et l'Union européenne post-Brexit.
Et est-ce qu'on peut penser ou réfléchir à une position où la relation passera par une certaine période, par une législation sur l'OMC et reviendra vers un accord de libre-échange après. Est-ce qu'on peut penser que il va se passer un an, deux ans sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce avant de repartir sur un accord plénière entre les deux parties?
C'est une très bonne question, Christophe, la question de savoir si en fait vous étiez une entité qui avait appartenu à l'Union européenne, que pour X raisons, là c'est le Brexit en tout cas, sort de l'Union européenne, est-ce qu'après vous avez finalement un chemin d'accès, un fast track plus privilégié, plus rapide que n'importe quelle autre entité qui voudrait négocier avec l'Union européenne? D'ailleurs, au-delà du Royaume-Uni dans sa globalité, Christophe, c'est la question de l'Écosse en fait qu'il est intéressant de se poser, c'est de savoir si un pays comme l'Écosse, en cas d'indépendance de l'Écosse, est-ce que pour qu'il puisse revenir dans le Royaume-Uni, dans l'Union européenne, pardon, est-ce qu'il y aurait un processus un petit peu accéléré parce qu'ils ont déjà appartenu au marché commun? Donc c'est ça aussi qui est intéressant avec la construction politique de l'Union européenne, qui est une construction politique assez récente, c'est que maintenant on va arriver finalement après avoir approfondi le marché commun, après l'avoir élargi, maintenant on se retrouve presque encore dans d'autres questionnements avec des pays qui voudront quitter peut-être temporairement ce marché commun, et quelles seraient pour ces pays les possibilités, les modalités pour le réintégrer peut-être de manière différente. C'est peut-être là la troisième vague de développement de l'Union européenne, c'est après l'élargissement, après l'approfondissement, quid du quid de la prochaine vague de pays qui ont appartenu à l'Union européenne et qui voudraient peut-être avoir une relation un peu différente d'un simple pays membre à part entière de l'Union européenne.
Absolument, c'est le darwinisme, tout évolue.
Tout à fait.
Merci Nathanaël, affaire à suivre.
Merci beaucoup Christophe.
Notre rubrique du dimanche consacrée à l'un des événements marquants et une personnalité de la semaine. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Émile Matassou. Bonjour Émile.
Bonjour à tous.
Focus aujourd'hui sur Maurice Genevoix, dont le cercueil a été transféré mercredi au Panthéon à Paris.
Le Panthéon sur la montagne Sainte-Geneviève au cœur de Paris, dans le 5e arrondissement. C'est là que reposent les hommes et femmes ayant marqué l'histoire de France, l'histoire de la nation. Plus de 80 personnalités, de Voltaire à Simone Veil, en passant par Victor Hugo, Jean Jaurès, Jean Moulin ou encore Pierre et Marie Curie, eh bien, l'écrivain Maurice Genevoix est le dernier en date à entrer au Panthéon. La cérémonie s'est tenue mercredi 11 novembre, présidée par le chef de l'État, Emmanuel Macron. Maurice Genevoix, décédé en 1980, il y a donc 40 ans, il avait alors près de 90 ans. Il est tout à la fois écrivain, récompensé du prix Goncourt en 1925, membre de l'Académie française, mais aussi un ancien poilu, combattant de la Grande Guerre, Maurice Genevoix, la Première Guerre mondiale, 14-18. Il a combattu dans la Meuse, il a été grièvement blessé, a même perdu l'usage de sa main gauche. Écrivain, mobilisé sur le front très, très jeune. Et il a, après cette guerre qui a meurtri des millions d'individus, il a écrit sur cette horreur le quotidien des soldats, des combattants dans les tranchées. Il a publié entre 1916 et 1923 cinq recueils intitulés « Sous Verdun »,« Nuit de guerre », »,« Au seuil des Guitounes »,« La boue » et « Les éparges ». Cinq recueils regroupés dans cet ouvrage intitulé « Ceux de 14, tous les poilus qui ont combattu. Et c'est à ce titre que Maurice Genevoix entre au Panthéon avec ceux de 14, tous les combattants de la Grande Guerre, et cette cérémonie donc qui s'est tenue mercredi au Panthéon.
Cette entrée au Panthéon coïncidait avec les célébrations du 11 novembre.
Oui, une journée du souvenir très chargée d'émotions. Alors, le 11 novembre, jour férié en France, cela nous renvoie au 11 novembre 1918, date symbolique de la fin de la Première Guerre mondiale avec la signature de l'armistice entre les belligérants. Ces dernières années, toute une série de commémorations se sont tenues en France, mais aussi dans tous les pays qui ont eu des soldats sur le front, pour célébrer les 100 ans de cette guerre, un cycle de commémoration entamé sous le mandat de François Hollande et poursuivi sous celui d'Emmanuel Macron, et qui s'est donc refermé symboliquement ce mercredi 11 novembre 2020. Alors, avant la cérémonie du Panthéon, le matin, mercredi, a eu lieu à quelques kilomètres de là, sous l'Arc de Triomphe, en haut de l'avenue des Champs-Élysées, à Paris, la traditionnelle cérémonie du 11 novembre, celle de l'armistice, avec la tombe du soldat inconnu qui se trouve sous l'Arc de Triomphe, avec une résonance particulière cette année, puisque cela fait 100 ans que cette tombe du soldat inconnu a été installée. Le 11 novembre 1920, un soldat français inconnu comme symbole de tous ceux qui ont péri. Les Anglais ont aussi leur tombe du soldat inconnu, inaugurée dans l'abbaye de Westminster à Londres le même jour, 11 novembre 1920, The Unknown Warrior. La Belgique a aussi sa tombe du soldat inconnu, mais depuis 1922, au pied de la colonne du Congrès. Le président français, Emmanuel Macron, a donc voulu faire coïncider toutes ces cérémonies du souvenir mercredi dernier, de l'Arc de Triomphe, du soldat inconnu, à l'entrée de Maurice Genevoix au Panthéon. Ces derniers jours, le cercueil de Maurice Genevoix, nous l'avons dit, décédé il y a 40 ans, a donc été déplacé de là où il se trouvait, au cimetière de Passy, à Paris, pour rallier le Panthéon. Mais il y a eu avant cela un voyage initiatique avec là aussi des célébrations, des cérémonies, avec son cercueil qui a été amené dans la Meuse, au village des Éparges, là où il a combattu, là où il a vécu l'enfer de la guerre des tranchées, un cercueil drapé des couleurs bleu, blanc, rouge, qui a donc fini ensuite par être transféré au Panthéon, où Emmanuel Macron a tenu un discours vibrant. Il a retracé l'histoire de Maurice Genevoix, ce jeune normalien épris de lettres, de littérature, brillant, et qui s'est retrouvé avec ses compagnons du 106e régiment d'infanterie en août 2014 à 24 ans seulement. Emmanuel Macron a décrit, je cite, « la joie, l'innocence, l'espoir de revenir vite quand vous partez à la guerre » et tous ces sentiments qui ont disparu pour faire place, je cite le président, là encore, à l'horreur des obus qui explosent, la terre mille fois ravagée, l'absurdité des combats. Le chef de l'État, dans ce discours au Panthéon, où des images ont été projeter cette cérémonie qui malheureusement n'était pas accessible au public en raison de la crise sanitaire, comme c'est de coutume, hein, généralement sur la rue hein, qui amène jusqu'au Panthéon. Vous avez des milliers de personnes massées quand on fait entrer ainsi des personnalités au Panthéon. Là, la cérémonie était retransmise à la télévision seulement. Emmanuel Macron s'est efforcé eh bien, d'établir des liens entre les révolutionnaires de 1789, la Révolution, les combattants de 14, et ceux, a-t-il dit, de toutes les guerres. Maurice Genevoix et ceux de 14, même si son œuvre littéraire hein, ne se résume pas à ce recueil, il a beaucoup écrit sur d'autres sujets tout au long de sa vie. Prix Goncourt, nous l'avons dit, en 1925 pour son livre Rabolio, élu à l'Académie française en 1946. Il avait un rapport à la nature très fort. Le roman, la poésie, il a passé beaucoup d'années sur les bords de Loire, en Sologne également. Et on retrouvait tout cela dans son écriture, un vocabulaire très riche, empreint de vivant. Maurice Genevoix, qui repose désormais au Panthéon, et avec lui, comme il l'a si bien écrit, donc tous les poilus de 14, ceux de 14 qui sont entrés également au Panthéon.
Et enfin, d'émission, un rappel des grands titres. Le Victoria a enregistré son 16e jour consécutif ce dimanche, sans nouveau cas de coronavirus et sans décès au Covid-19. C'est la semaine nationale de la sécurité routière et les Australiens sont priés à faire une pause, à se souvenir des 1200 personnes tuées dans des accidents de la route chaque année. Voilà, nous arrivons presque à la fin de cette émission et je vous laisse avec Francis Cabrel qui nous interprète Chanson pour Jacques. Prochain rendez-vous, mardi à 13h. À bientôt.
Il y a une fille à Langui, au milieu d'un grand lit, qui attend que j'appelle. Si j'étais un guerrier et le monde a sauvé, je commencerai par elle, ça je crois savoir.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.